agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
C'est le sang, c'est la vie, c'est plein de choses. C'est tout son contraire, c'est assez paradoxal comme couleur, mais c'est quelque chose qui est infiniment présent et qui est comme le café finalement. Pour moi, c'est une énergie permanente, vitale, un besoin. Le rouge est mis, quoi.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Dans quelques jours va surgir le Père Noël, tout de rouge vêtu. L'émission de ce matin étant consacrée à cette couleur, je sens bien que vous trouverez peut-être, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, que pour une fois, le lien avec notre actualité est quelque peu ténu. Heureusement, j'ai mieux à vous proposer, à l'occasion de l'anniversaire de la Nativité. Mon invité, Michel Pastoureau, admirable historien, entre autres, de toute la diversité de l'arc-en-ciel, a fait un sort dans l'un de ses livres à l'épisode du jeune Jésus placé encore enfant chez un maître teinturier. Un épisode qui est rapporté par les évangiles, dits apocryphes, des évangiles qui remontent au 2e ou au 3e siècle et qui eurent une grande influence sur l'iconographie au Moyen-Âge. Jésus aurait été un beau jour chargé de colorer de diverses façons des étoffes somptueuses. Mais pressé de rejoindre ses parents, Joseph et Marie, il aurait plongé toutes ses étoffes dans le même bain, provoquant la colère du teinturier. Sur quoi Jésus lui aurait dit « Ne t'inquiète pas, maître, je vais rendre à chaque étoffe la couleur qui doit être la sienne. » Et il les replongea toutes dans la cuve, puis les ressortit une à une, chacune dotée, ô miracle, de la couleur souhaitée. Avec assurément le rouge avant tout autre, ce rouge qui fut longtemps pour le christianisme la première des couleurs, celle de la Pentecôte et de l'Esprit-Saint, mais aussi satanique, celle des flammes de l'enfer. Une couleur qui est déclinée selon un magnifique éventail, écarlate, pourpre, cramoisi, améthyste ou carmin.
Une rose rouge, une rose rouge,
une rose rouge, 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 rouge de printemps, sur un blanc comme sage, 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 sage de 20 ans, vient de fleurir au bord d'un champ de blé. Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait rêver. Sur la route blanche, 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 blanche ensoleillée, un nuage danse, 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 danse au vent léger. C'est une troupe qui s'avance au pas vers le vieux village que l'on voit là-bas. C'est l'été et dans le ciel en fête, et d'où les cœurs sont légers, légers sous le soleil. C'est l'été qui fait perdre la tête, car aujourd'hui l'amour est en éveil.
Une rose rouge,
une rose rouge, une rose rouge, rouge, rouge s'est donnée. Et le blanc corps sage, 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 sage a frissonné près du garçon qui ce beau soir d'été osa le premier sourire à sa beauté. Sous la lune blanche, 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 un baiser, le temps d'une danse, 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 danse fut osé. On lisait dans les yeux des autres regards le regret de ne pas être celui. La seule été et dans le ciel en fait, la nuit a fait briller, briller ses feux follets. C'est l'été qui fait perdre la tête, car aujourd'hui l'amour s'est éveillé.
Une rose rouge,
une rose rouge, 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 rouge s'est fanée. Et le blanc corps sage, 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 sage abandonné, et resté seul au bord du champ de blé. ce n'est qu'une enfant que l'amour fait pleurer. Bon, 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 bon. Sur la route blanche, 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 blanche et désolée, un nuage danse, 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 danse au vent léger. C'est une troupe qui s'en va déjà, quittant le village que l'on voit là-bas. C'est l'été qui laisse solitaire un pauvre cœur blessé, blessé pensant tout bas. Qu'en été, un beau jour de lumière, peut-être que l'amour, l'amour lui reviendra.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson s'intitulait « Une rose rouge ». Elle était enregistrée en 1957. Elle était interprétée par Francis Lemarque, qui en est un des auteurs, avec Norbert Glanzberg. J'ai choisi de commencer par quelque allégresse, même si la portée de la couleur rouge à travers les âges est extrêmement ambivalente, en fait.
Oui, c'est une couleur qui, peut-être plus encore que toutes les autres, a des bons et des mauvais aspects. D'un côté, c'est, comme le chante Francis Lemarque, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la joie, c'est la fête. Et de l'autre, c'est la colère, les crimes de sang, la justice, l'enfer avec ses flammes, etc. Donc on a une ambivalence totale. Et dès les époques les plus anciennes, dans la Grèce archaïque ou dans la Rome républicaine, on a déjà cette double signification de la couleur rouge.
Vous qui vous êtes tant occupé de l'ensemble de l'arc-en-ciel des couleurs, vous nous dites que parler de couleur rouge, c'est presque un pléonasme, parce qu'au fond, c'est la couleur par excellence, en tout cas dans l'Antiquité, la couleur archétypale, la première de toutes les couleurs.
Oui, c'est la première couleur que l'homme occidental, en tout cas, a maîtrisée à la fois en peinture et en teinture. Et ça a laissé des traces, c'est en effet la couleur par excellence, même si aujourd'hui, ça n'est plus la couleur préférée dans le monde occidental, c'est le bleu. Quand on pense couleur, on pense d'abord rouge.
D'ailleurs, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues, le même mot signifie rouge et coloré.
Oui, coloratus en latin, par exemple, signifie soit rouge, soit en couleur, ou colorado, aujourd'hui, en castillan.
Riche aussi, ça peut vouloir dire
riche.
Rouge
et même beau, dans les langues slaves, c'est la même racine qui signifie rouge et beau. À Moscou, la place rouge, ça n'est pas la place communiste, c'est la belle place, elle l'est déjà du temps des tsars.
Même si elle a incarné pour beaucoup de peuples occidentaux le péril rouge.
Oui, bien sûr, c'est l'histoire récente, cela. Mais elle était déjà rouge au XVIIIe siècle, donc c'est la belle place. Et rouge et beau ont une histoire commune dans de nombreuses sociétés.
On déroule des tapis rouges quand on veut faire honneur aux souverains étrangers.
Voilà, alors là, c'est le rouge du pouvoir, de la majesté, de la solennité, de la théâtralité. Il y a une mise en scène par le rouge, toujours, quel que soit le contexte.
C'est peut-être aussi l'interdiction, le feu rouge.
Voilà, rouge de l'interdiction, de la punition aussi, rouge interdit de passer, rouge signale un danger, ne pas dépasser la dose prescrite sur nos emballages de médicaments, ou bien les copies des colliers corrigées à l'encre rouge. Tout ça fait partie de cette riche symbolique qui n'a absolument rien d'ésotérique, qui prend sa place dans notre vie quotidienne, et cela depuis longtemps.
Alors depuis longtemps, justement, nous allons regarder cela, Michel Pastoureau, dans la longue durée, dans la tradition juive déjà. Le rouge jouissait d'une complexité et d'une importance considérable, puisque on apprend à vous lire que Adam signifie rouge en hébreu.
Oui, Adam est fabriqué, selon les traditions, avec de l'argile rouge, et son nom signifie étymologiquement l'homme rouge. Le premier être humain est un homme rouge. D'ailleurs, dans la Bible, le rouge occupe une place importante, au même titre que le noir et le blanc, alors que les autres couleurs, jaune, vert, bleu, sont rarissimes. La Bible est un livre, aussi bien pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament, en noir, rouge, blanc.
On trouve déjà le sang, parce que le rouge vif est la marque de l'immolation. Cette couleur incarne aussi le péché que l'on tente d'expier par ce même sacrifice. Vous nous rappelez Ésaïe qui disait « Quand bien même vos crimes auraient la couleur du sang, ils seront blancs comme neige ».
La double symbolique référentielle du rouge est présente dans les livres bibliques. D'un côté le sang, et il y a un bon et un mauvais sang. Et de l'autre, le feu, il y a un bon et un mauvais feu, un feu rédempteur, mais aussi un feu destructeur. La symbolique juive puise beaucoup dans ces quatre pôles rouges, au fond, et le christianisme va les reprendre dans la longue durée. On va avoir le bon sang rouge, c'est celui du Christ qui sauve, qui ressuscite. Le mauvais sang, c'est celui des crimes de sang, bien sûr, des sangs impurs, des tabous sur le sang. Le bon rouge feu, c'est celui de l'Esprit Saint et de la Pentecôte, il est rédempteur. Et le mauvais rouge feu, nous l'avons déjà dit, c'est celui des flammes de l'enfer.
J'ai plaisir à rappeler que déjà dans le Cantique des Cantiques, on peut voir comparer les lèvres de l'aimé à un ruban rouge. C'est
oui,
plus gai de la Légion d'honneur.
Plus ou moins. Elle est belle, elle est noire, mais elle est belle, et elle a une situation qui en fait au cœur de la triade noir, rouge, blanc, et c'est quelque chose qui est récurrent dans les sociétés anciennes.
Donc il y a à la fois l'honneur et puis la honte et la trahison.
C'est cela, oui. Il y a la justice et l'exercice de la justice. Il y a la fête, la joie, la charité d'un côté, la colère, la faute, le péché de l'autre. C'est vraiment une ambivalence totale et on ne retrouve pas avec autant de force ces contraires dans les autres couleurs. Cela existe aussi, mais à un degré moindre quand même. Le rouge, c'est vraiment l'ambivalence totale et bien sûr aussi l'ambiguïté.
Les Grecs et les Romains ont joué aussi un rôle majeur dans la définition symbolique du rouge.
Les Grecs et les Romains sont assez experts pour fabriquer le rouge en diverses nuances, aussi bien les peintres que les teinturiers. D'ailleurs, le lexique des rouges, en grec ancien comme en latin classique, est très diversifié, alors que pour les autres couleurs, il l'est beaucoup moins. Donc c'est signifiant de la place de cette couleur à la fois dans la vie quotidienne et dans le monde des symboles. Il y a rouge et rouge pour les Romains. On le voit bien d'ailleurs sur les toges qui sont teintes avec de la pourpre, il y a différentes qualités de pourpre, comme plus tard il y aura différentes qualités de kermesse ou de cochenille. Et plus la couleur est intense, plus elle est lumineuse, plus elle est valorisante, bien sûr, et réservée à certaines classes ou catégories sociales, et plus tard, à l'époque impériale, à l'empereur lui-même.
La pourpre impériale.
La pourpre impériale, qu'on obtient difficilement d'ailleurs à partir de différents coquillages que l'on récolte sur les côtes de la Méditerranée orientale.
Le murex.
Le murex et d'autres mollusques cousins du murex. Il faut beaucoup de coquillages pour récolter un peu de matière colorante, d'où le prix énorme de ce produit. Et puis, les techniques sont difficiles et la couleur, qui est vive, lumineuse, a une coloration qui se situe entre rouge, violet et noir. Et elle a cette particularité d'être relativement instable. Une fois l'étoffe teinte avec la pourpre du mollusque, elle va prendre au fil du temps, selon la lumière, selon le climat, des teintes différentes. Ça ne s'arrête pas avec le procédé tinctorial, mais ça continue d'évoluer. C'est une des particularités de la pourpre antique, dont la recette s'est perdue pendant le haut Moyen-Âge, aussi bien à Byzance qu'en Occident.
C'est comme le vin rouge, en somme. L'excellent vin rouge a aussi une vie compliquée dans le palais.
C'est vrai. Et une palette qui est très, très diversifiée. Quand on regarde verre ou bouteille, on voit que le vin rouge est de tous les rouges possibles.
Et puis il y a le porphyrogénète, le porphyre.
Alors c'est l'empereur, ou plutôt le fils de l'empereur, qui est né dans la chambre pourpre du vivant de son père, et c'est un privilège immense d'être né dans la pourpre.
Porphyre.
Le porphyre, qui étymologiquement se rattache au purpureus latin.
Vous évoquez, Michel Pastoureau, le rouge chrétien. Il faut considérer la manière dont le Moyen-Âge s'est saisi de cette couleur.
Oui, le Moyen-Âge chrétien fait du rouge, d'un côté, une couleur christologique. Le Christ verse son sang pour racheter les fidèles pécheurs. Donc le rouge est signe de sa charité. Il est signe aussi du sang que tel ou tel fidèle verse pour le Christ. C'est le cas des croisés qui partent combattre sous la bannière à croix rouge.
Sur fond blanc.
D'ailleurs, pendant une large partie de l'histoire de l'Occident, le vrai contraire du blanc n'est pas tant le noir que le rouge. Un couple blanc-rouge, c'est plus fort qu'un couple blanc-noir, au moins jusqu'à l'apparition de l'imprimerie.
On ne sait pas toujours que c'est à la fin du XIIIe siècle, en 1295, que le pape a décidé de vêtir les cardinaux de robes rouges. Ce qui nous donne aujourd'hui, quand on photographie les rassemblements à Saint-Pierre de Rome, des spectacles magnifiques.
Oui, avec des rouges qui sont d'ailleurs pas toujours les mêmes en termes de teinture. Mais l'idée est que les cardinaux, au fond soldats du pape, sont prêts à verser leur sang pour le Christ et l'habit rouge les reconnaît comme tels. Ils expliquent aussi pourquoi le Père Noël est vêtu de rouge. Le Père Noël, c'est l'héritier de Saint Nicolas. Saint Nicolas est cardinal. Dans l'iconographie, il est vêtu de rouge à la fin du Moyen-Âge et tout au long de l'époque moderne. Et donc, son héritier, le Père Noël, est lui aussi vêtu de rouge. Il faut mettre de côté la légende selon laquelle la firme Coca-Cola aurait joué un rôle dans la mise en rouge du Père Noël.
Tant mieux, on fait litière de cette idée-là.
Voilà, il faut remonter plus haut et jusqu'à Saint Nicolas.
Je vous remercie, Michel Pastoureau, de justifier décidément le lien entre notre actualité et notre émission qui est consacrée au rouge. Alors, il y a l'Église et puis il y a aussi d'ailleurs les souverains, puisqu'il fallait porter dans les moments essentiels quelque chose qui fût rouge. Je pense à Charlemagne, qui avait, au moment de son couronnement à Rome, une simple paire de chaussures rouges en cuir.
Oui, Charlemagne veut restaurer l'idée impériale et il prend conseil pour essayer de mettre en scène une certaine majesté que l'on trouvait déjà dans la Rome antique. Alors, c'est pas toujours tout à fait au point, mais le rouge, à partir des 8e, 9e siècles, devient en Occident une couleur propre à l'empereur et à la mise en scène de l'empereur. Cela disparaîtra en France avec l'avènement de la royauté capétienne, mais va se maintenir dans le Saint-Empire romain germanique, où jusqu'à des dates avancées, l'empereur, chez les Ottoniens, puis chez les successeurs, auront prioritairement un vêtement rouge à une époque où, 12e, 13e, 14e siècle, le roi de France, lui, se fait de bleu prioritairement. Le rouge a toujours eu à voir avec l'idée d'empire et avec la majesté impériale, et avec un certain nombre de solennités où la mise en scène et la théâtralité jouent un rôle important, le rouge est plus majestueux que les autres couleurs. En tout cas, il est ressenti comme tel en Occident.
Il y a aussi un lien avec la justice.
Il y a le rouge de la justice. Alors là, c'est un peu une autre idée. C'est celle du pouvoir associé au droit de vie et de mort. Et non seulement, à partir des lendemains de l'an 1000, en Occident, un certain nombre de magistrats et de juges sont vêtus de rouge ou de rouge et noir, mais aussi les bourreaux ont un vêtement rouge, ils font couler le sang, et on a quelques documents comptables pour la fin du Moyen-Âge, où le bourreau, après avoir exercé, se fait payer, et ce qui lui permet d'acheter des gants et un bonnet neuf, et ces gants et ce bonnet sont de couleur rouge.
Les juges sont toujours en rouge, et d'ailleurs les professeurs de droit, aujourd'hui, dans les universités, continuent de porter la toge rouge, notamment dans les jurys. J'étais l'autre jour dans un jury, étant littéraire, avec des juristes, j'étais le seul à être en jaune, comme vous le seriez aussi, Michel Pastoureau.
Oui, nous autres littéraires, nous avons droit à la toge jaune et nos collègues juristes la toge rouge. Ils se voient beaucoup mieux que nous.
Je voudrais donner la parole maintenant à Christian Lacroix, l'admirable couturier arlésien qui avait été chargé il y a quelques années. Je crois que vous aviez contribué d'ailleurs à cet événement, qui avait été chargé dans la bibliothèque musée de l'Opéra, une exposition consacrée au rouge dans la vêture des hommes et des femmes. Et voilà ce qu'il dit lors de la fête de Noël dans ses salons diffusés dans Carnet nomade de Colette Fellou sur France Culture le 30 décembre 2005.
Et le rouge vous a suivi depuis
Oui, je pense, j'ai aucun souvenir de mon berceau, mais d'avoir un peu de rouge ou... C'est le sang, c'est la vie, c'est plein de choses. C'est tout et son contraire, c'est assez paradoxal comme couleur, mais c'est quelque chose qui est infiniment présent et qui est comme le café finalement. Pour moi, c'est une énergie permanente, vitale, un besoin. Et sans le dire, finalement, là je m'aperçois que le canapé est rouge, que Nadia est habillée de rouge, que les sacs qui enveloppent les sacs sont rouges. Donc le rouge est mis, quoi. Bertrand a gagné.
une manière d'être, de se tenir droit quand vous
le rouge, oui, c'est vrai. Pour moi, le rouge est entre le noir et le blanc. Et les trois, finalement, assurent un certain maintien, une certaine tenue. Et sont aussi des fonds sur lesquels tout se lit mieux. Hier, j'avais trois mots à dire, à écrire sur l'optimisme. Et je me suis dit que sur le fond noir, qui est quand même un peu la couleur dominante du moment, même si la colère est rouge, là, c'est un peu une colère noire là, pour moi, de voir tout ce qui se passe partout. Moi, je râle après les gens quand je vois comment sont retransmis les événements, quand je reçois le Figaro le matin, quand je écoute LCI. Je suis très en colère. Et je me disais que finalement, sur fond noir, les choses se détachent mieux, qu'on peut davantage inscrire l'optimisme, l'avenir, les plans, les envies sur un fond noir. Mais sur un fond rouge, c'est pas mal.
Alors, vous aviez participé à cette exposition, je crois, Michel Pastoureau.
Oui, j'avais modestement collaboré avec Christian Lacroix. J'en garde un souvenir magnifique. C'était impressionnant de voir Christian Lacroix installer des costumes de scène de manière à ce qu'on puisse tourner autour. Et puis j'ai souvenir d'un fou rire que nous avons eu tous les deux en cherchant dans le musée des costumes de l'Opéra, dans un dépôt de Seine-et-Marne. Il y avait des costumes depuis le Second Empire avec une étiquette qui indiquait pour quel rôle ce costume était fait. Et alors, devant une robe 1880, il y avait une étiquette. Elle était entièrement rouge avec de grandes taches vertes. Christian Lacroix avait dit que c'était des choux-fleurs. Et l'étiquette disait « pour une cousine de province qui a eu des chagrins ». C'était un rôle type à l'opéra, à cette époque. Ça nous avait beaucoup fait rire.
On peut rappeler que cette bibliothèque de l'opéra, ce musée, dépend en fait de la Bibliothèque nationale de France.
Oui, c'est un département de la Bibliothèque nationale de France, le département de la musique et de l'opéra, qui est extrêmement riche et qui est installé sur différents sites.
Hommage en passant, mais revenons-en à l'époque de la Renaissance, où on a le sentiment d'un certain déclin. J'ai de la peine à le dire, Michel Pastoureau. Votre rouge décline un peu, et notamment sous l'effet de la réforme. Pour les réformer, le rouge est au fond la couleur des papistes.
Oui, les grands réformateurs protestants, qui reprennent une partie des morales de la fin du Moyen-Âge, moralisent beaucoup la couleur et distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs qui ne le sont pas. Déshonnêtes, comme disent Calvin et Melanchthon.
Parce qu'au fond, on parle toujours de l'iconoclasme des protestants, qui n'acceptent guère les images, mais il y a aussi une sorte de chromoclasme.
Oui, on peut parler de chromoclasme, de rejet des couleurs, en tout cas rejet des couleurs vives, et notamment le rouge, couleur en effet des papistes pour les réformer, mais aussi le vert et le jaune, réputés trop voyants, et inversement, sont dignes d'un bon chrétien, et même d'un bon citoyen à Genève, sous Calvin, le noir, le blanc, le gris et le bleu, qui a la chance d'être rangé dans le bon groupe. Et ça n'a l'air de rien, mais ça a des conséquences considérables, à la fois sur le culte, bien sûr. Les couleurs vives sont chassées du temple, on détruit des vitraux, on recouvre des peintures murales, on abandonne le système des couleurs liturgiques, mais aussi sur la création artistique. À partir du milieu du XVIe siècle, on peut distinguer en Europe une palette protestante et une palette catholique, par exemple. Opposé à Anvers Rubens, un des plus grands coloristes de tous les temps, peintre catholique, et une génération plus tard, un peu plus au nord, Rembrandt, peintre calviniste, avec une palette tout à fait différente. Et puis ça a des conséquences sur la vie quotidienne. Au Moyen-Âge, ça n'est pas rare qu'un homme s'habille entièrement de rouge. À partir de la réforme protestante et de la contre-réforme catholique, qui sur ce point reprend une partie de la réforme, c'est presque fini. Les hommes ne s'habillent plus en rouge. D'ailleurs, dans ce studio, un homme entrerait entièrement vêtu de rouge. Ça ferait un écart par rapport à nos habitudes.
Nous l'accepterions, nous sommes très tolérants.
Bien sûr, nous sommes très tolérants.
Mais c'est vrai que ça dure très longtemps, jusqu'au 19e siècle bourgeois.
Oui, alors le 19e siècle moralise énormément les couleurs et les grands capitaines d'industrie, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, sont souvent protestants et véhiculent dans la diffusion d'objets de consommation de masse des valeurs protestantes. Les premiers appareils ménagers, les premiers téléphones, les premières voitures, tout ça s'inscrit dans une gamme noir, gris, blanc, brun. Les couleurs vives sont exclues. Le cas le plus célèbre, célèbre, c'est Henry Ford, le fondateur des automobiles, un grand puritain et un homme un peu étrange, qui toute sa vie ne veut vendre que des voitures noires, alors que la clientèle réclame de la couleur ou que les concurrents proposent des couleurs. Non, lui ne veut que du noir pour des raisons morales.
Alors que Ferrari fait des voitures rouges très admirées.
Oui, c'est la marque emblématique avec le cheval et la couleur rouge. On ne me croit pas quand je raconte que quand moi j'étais enfant, certaines compagnies d'assurance imposaient une taxe supplémentaire aux possesseurs de voitures rouges, non pas tant parce qu'elles étaient rouges, que parce que, étant rouges, elles étaient conduites par de jeunes conducteurs qui avaient sans doute plus d'accidents que les autres. Donc, assurer une voiture rouge jusqu'à la fin des années 60 coûtait plus cher qu'assurer une voiture blanche, grise ou noire.
Mais ici, nous vous croyons. Là, je reviens un instant à la réforme. Les réformateurs protestants pensent que le rouge est immoral. D'ailleurs, ils se réfèrent à ce passage de l'Apocalypse où Saint Jean raconte comment, sur une bête qui est venue de la mer, chevauchait la grande prostituée de Babylone qui était vêtue d'une robe rouge.
Ça fait écho, à différentes époques, à l'étoffe ou à la pièce de vêtement de couleur rouge qui, dans certaines villes, est imposée aux professionnels de la débauche. On a pas mal de documents pour la fin du Moyen-Âge, mais on en a aussi pour les 17e, 18e et 19e siècles. Le rouge, c'est la marque distinctive des prostituées ou des lieux de prostitution.
Une lanterne à la porte.
Une lanterne rouge ou une enseigne rouge, ça laisse des traces dans la littérature jusqu'en plein 20e siècle. C'est quelque chose qui vient de loin et qui permet de remonter presque jusqu'à la Bible. En effet, la grande prostituée de Babylone porte robe rouge.
L'expression « lanterne rouge » dans une course vient aussi de la même origine ?
Oui, ça vient du Tour de France où la dernière voiture qui accompagne les coureurs, certains arrivant très tard dans la nuit, hein, dans les premières années du Tour de France, se distinguait par une lanterne rouge. Donc on a transporté l'expression sur le dernier du classement général pour le Tour de France, parce que dans le Tour d'Italie, on ne dit pas lanterne rouge, on dit maillot noir. Le dernier du classement général est censé porter un maillot noir et pas une lanterne rouge.
Je voudrais maintenant, Michel Pastoureau, que nous en venions à la question de la fabrique de la couleur rouge, la commercialisation aussi. C'est une activité très profitable qui a enflammé l'Europe et avec des origines de cette teinture qui se rapporte au règne à la fois minéral, végétal et animal.
Oui, dans la gamme des rouges, aussi bien en peinture qu'en teinture, l'homme dispose d'un grand nombre de matériaux. Ça n'est pas vrai de toutes les couleurs. Mais pour teindre en rouge, par exemple, il y a des produits de luxe comme la pourpre antique ou bien la cochenille, d'abord méditerranéenne ou est-européenne, puis plus tard mexicaine à l'époque moderne. Il y a la garance que l'homme a maîtrisée très tôt, qui est plante qui pousse sur de très nombreux terroirs et dont les racines ont des propriétés tinctoriales. La garance donne de très beaux rouges, solides, mais qui sont mats, alors que le kermès ou la cochenille donnent des tons beaucoup plus lumineux et brillants.
Alors justement, à propos de garance, je voudrais que vous disiez un mot du métier de teinturier que vous avez évoqué dans un livre que je citais tout à l'heure sur Jésus chez le teinturier, c'est-à-dire un extrait des évangiles apocryphes. C'est un métier qui est d'abord considéré comme un métier sale et presque un métier de la tromperie.
Oui, c'est un métier bien documenté parce que les teinturiers sont des personnages agités. Ils laissent beaucoup d'archives. Ils sont, dans la longue durée, séparés en différentes catégories. Notamment, il y a des teinturiers de rouge qui ont le droit de teindre aussi en blanc et en jaune, et des teinturiers de bleu qui teignent en vert et en noir. Et naturellement, les uns et les autres n'ont pas licence pour teindre dans les couleurs pour lesquelles ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même, d'où des procès, des querelles.
Je vois que dolon, qui signifie teindre en grec, signifie aussi tromper.
Oui, voilà, et en latin, il y a un jeu de mots entre tingere, teindre, et fingere, feindre. Le jeu de mots, d'ailleurs, marche très bien en français, teindre et feindre. C'est l'idée remarquez que les teinturiers vendent comme couleur solide une couleur qui ne tient pas sur l'étoffe. Ça n'est pas très vrai des rouges, qui sont en général solides, mais c'est vrai des noirs, par exemple, de certains verts, de certains jaunes. Le teinturier, non seulement occupe une officine qui est sale et bruyante, non seulement il salit les eaux de la rivière dans une ville donnée. Les autorités municipales souvent demandent aux teinturiers de s'installer à la périphérie, pas au centre des villes, parce que cet antre sent très mauvais et on y fait des opérations mystérieuses, changer la couleur de la matière. Et puis, les teinturiers passent pour mauvais coucheurs, querelleurs, tricheurs. Ils ne sont pas aimés. En plus, ils sont méprisés par les drapiers qui, eux, sont marchands, alors que les teinturiers ne sont qu'artisans. On retrouve cette longue opposition dans les sociétés occidentales entre le monde des marchands, presque aristocratique, et le monde des artisans, tout à fait prolétaire. Et les teinturiers, malgré leur nécessité pour la société, l'industrie drapière, c'est la grande industrie de l'Occident pendant très longtemps, et la seule. Donc les villes drapières ont besoin des teinturiers, mais ils sont mal aimés, c'est vrai.
Leur réputation s'améliore néanmoins progressivement, du côté de l'Italie en particulier.
Au fil du temps, la réputation des teinturiers s'améliore parce que eux-mêmes s'enrichissent. Dans certaines villes italiennes, ils participent aux activités municipales, aux bureaux de ville. C'est le cas à Florence tardivement et à Venise. Venise, qui est la grande capitale de la couleur de l'Europe occidentale, toutes les marchandises venues d'Orient, produits colorants et pigments, arrivent à Venise et sont redistribuées d'abord vers Nuremberg et vers Bruges, puis vers tout l'Occident. Et donc les teinturiers voient leur sort s'améliorer, et peut-être parce qu'eux-mêmes ont pris un saint patron prestigieux, le petit Jésus, placé en effet, selon la légende, en apprentissage chez un maître teinturier, chez lequel il fait beaucoup de bêtises, mais il répare ses bêtises en opérant des miracles. Alors, les teinturiers financent des vitraux ou des peintures murales dans telle ou telle chapelle pour mettre en scène Jésus teinturier, et ça contribue un peu à leur prestige d'avoir eu un prédécesseur aussi admirable que l'enfant Jésus.
C'est aussi à Venise, semble-t-il, qu'on invente le vert rouge, qui est selon une technique très sophistiquée.
On invente beaucoup de pigments et de colorants. On écrit beaucoup sur la couleur, documents manuscrits qui nous sont parvenus en grand nombre, recettes pour peintres et pour teinturiers, puis plus tard, livres imprimés, qui sont des véritables traités de la couleur à partir du début du XVIe siècle. Venise est vraiment la grande ville de la couleur en Occident.
Et du rouge en particulier.
Et notamment la ville du rouge. D'ailleurs, les peintres vénitiens sont des grands coloristes. Titien, Giorgione, Véronèse, les grands peintres du XVIe siècle, sont d'admirables coloristes. Alors que les Florentins, par opposition, sont plutôt des champions du dessin.
Dans cette histoire du rouge que nous évoquons ce matin, Michel Pastoureau, la cochenille mexicaine va jouer un rôle essentiel. Je voudrais que nous nous y attardions un instant, puisqu'il n'y a pas que la terre comme l'ocre, il n'y a pas que le règne des plantes, Garance par exemple, il y a les animaux, les insectes. La cochenille mexicaine, c'est une histoire méconnue et je trouve passionnante.
Quand les Européens mettent pied au Nouveau Monde, et notamment en Amérique centrale et aux Caraïbes, ils découvrent une matière tinctoriale qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient mal, beaucoup plus performante que celle qu'ils utilisaient depuis des siècles en Europe même. On importait en effet en Europe occidentale un insecte qui avait des vertus tinctoriales, la cochenille méditerranéenne. C'est un insecte parasite de certains arbres, notamment le chêne.
Médiocre cochenille par comparaison avec la cochenille mexicaine.
Tout à fait. La cochenille mexicaine est bien plus performante dans la gamme des rouges.
Saluons.
Seule la femelle présente cette particularité. Lorsqu'elle s'apprête à pondre ses œufs, elle s'enveloppe d'une espèce de coque qui la fait ressembler à ce qu'on appelait une graine. Elle s'accroche sur certaines plantes, sur certains arbustes, sur certains arbres. On la récolte, on la broie, on en extrait une matière colorante, mais il faut énormément de cochenilles femelles pour obtenir un peu de matière colorante.
C'est aussi recherché que de l'or.
C'est très cher. C'est presque aussi précieux que de l'or au XVIe siècle. Mais au fil du temps, le prix va baisser parce que on va exploiter presque de manière industrielle cette cochenille. Et la culture au Nouveau Monde est faite par des esclaves, ce qui fait que malgré la traversée de l'Atlantique, cette cochenille mexicaine, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, va être moins chère que certaines matières colorantes rouges que l'on produit en Occident. Un véritable problème économique et social.
Le déclin de la cochenille survient lorsque, hélas pour elle, on invente des rouges synthétiques. C'est la figure importante de William Henry Perkin, l'inventeur des couleurs chimiques.
Oui, à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, les chimistes mettent au point des colorants de synthèse qui peu à peu éliminent les colorants naturels, végétaux, animaux comme la cochenille et minéraux même comme les terres ocre rouge pour peindre et parfois pour teindre en rouge. Parfois, il y a des ratés et donc on remet à la mode un colorant ou un pigment ancien ou un événement comme le blocus continental qui empêche l'Europe de s'approvisionner en produits venus d'Amérique et cela remet à l'honneur un certain nombre de cultures. La garance, par exemple, retrouve une certaine actualité sous le Premier Empire à cause du blocus. Certaines régions se remettent à cultiver la garance parce que la cochenille américaine n'arrive plus en raison du blocus continental. Mais bon, c'est d'assez courte durée. Et puis tout le 19e siècle voit apparaître ces colorants de synthèse, notamment dans la gamme des rouges, des colorants de type cochenille, mais synthétiques, de plus en plus perfectionnés au fil des décennies.
Néanmoins, la cochenille a repris à partir des années 70 un certain lustre, si vous me pardonnez cette expression, Michel Pastoureau, grâce à l'écologie.
À notre époque, bien sûr, les colorants naturels ont meilleure presse que les colorants de synthèse, les colorants chimiques. Donc, dans tel ou tel domaine, on se remet soit à cultiver, soit à produire pigments et colorants naturels, qui sont évidemment beaucoup plus chers que les produits de synthèse. Il y a une petite vogue de ces produits-là, notamment dans la gamme des rouges et dans la gamme des bleus.
La cochenille bio.
La cochenille bio, pourrait-on dire, de même qu'il y a le pastel bio.
Alors, voyageons un peu, si vous voulez bien, pour ne pas rester dans notre seul Occident. L'Orient a eu, à l'égard du rouge, de notre couleur rouge, dont nous parlons ce matin, Michel Pastoureau, l'Orient a eu des attitudes très différentes. Je pense en particulier à la Chine. Écoutez cette interview de Cyril Javary, qui est un caissinologue, à propos de l'affaire rouge. Ça désigne le mariage en Chine. C'est un extrait de la Matinée des eaux de Pascal Lismonde sur France Culture, le 2 mars 1993.
L'affaire rouge. Tout est en joie dans le mariage, tout sera rouge. Les habits des mariés, le palanquin qui amène la mariée chez son fiancé, les plats, les gâteaux, les cadeaux, les draps, jusqu'au voile qui recouvre le visage de la mariée, ce qui lui permet entre autres, elle, de voir son époux au travers des mailles avant que lui ne puisse découvrir son visage. Mais même le cordon, dans l'un des actes du mariage, il y a un cordon, on en accroche un nœud rouge au pied du marié et de la mariée. Et l'expression « pied lié par un cordon rouge » signifie que les deux époux étaient prédestinés au mariage de toute éternité. À partir de cette idée de mariage, le rouge va gagner en ampleur et signifier tout ce qui a trait à la passion, à l'amour, et aussi à la chaleur de l'amour et à la luxure. Si on dit de quelqu'un, qu'elle a, d'une femme surtout, qu'elle a l'air rouge, qu'elle a la mine rouge, eh bien, c'est un grave compliment. Compliment parce que ça signifie qu'elle est belle, grave parce que ça signifie qu'elle peut être soupçonnée de mœurs légères. La poudre rouge, fenhong, la poudre rouge, qui est en fait rose.
Et la poudre dont on se farde.
Dont on se farde, absolument. Elle sera aussi à la fois un phare pour embellir, mais en même temps aussi pour montrer la santé. Et d'ailleurs, il est curieux de remarquer que la rose, qui a chez nous un sens très passionnel, est assez peu valorisée en Chine. À la place viendra la moutan, la pivoine. La pivoine a toujours fasciné les Chinois dans la mesure où ce petit œuf tout serré sort des dizaines et des dizaines de pétales avec une profusion qui est celle de la vie Et les plus belles pivoines sont bien entendu rouges. Et la pivoine est une des fleurs symboles de la Chine.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
La pivoine rouge contre la rose rouge que nous entendions tout à l'heure célébrée par Francis Lemarque. Alors Michel Pastoureau, la Chine est un champ d'observation également très riche.
Oui, et de comparaison avec l'Occident, et les couleurs y sont pratiquées, vécues différemment. La symbolique n'est pas la même. Le rouge, par exemple, en Chine, y compris aujourd'hui, est une couleur porte-bonheur. Les mauvais aspects du rouge sont beaucoup plus limités qu'en Occident.
D'où les petits livres rouges, peut-être.
Alors, c'est un cas un peu différent, mais il n'est pas rare encore aujourd'hui qu'à l'occasion d'une fête, le Nouvel An chinois, par exemple, le mari offre à sa femme ou le fiancé à sa fiancée des sous-vêtements rouges. C'est à la fois un cadeau qui signale la fête, l'amour, mais aussi, bien sûr, la sexualité. Il y a cette triple dimension là dans le rouge, on le retrouvait d'ailleurs dans la pivoine qui était évoquée, qui était un symbole à la fois de fécondité mais aussi de sexualité.
C'est vrai aussi en Inde, je vois que la jeune mariée indienne porte 3 saris distincts durant la cérémonie, dont l'un est le sari de sang qui lui est offert par son père.
Oui, en Inde, il y a aussi une forte symbolique des couleurs, alors différente de celle de la Chine et très différente de celle de l'Occident. Et des nuances de couleurs qui, chez nous, ont une symbolique assez faible, peuvent prendre une grande importance en Chine. C'est le cas de ces deux déclinaisons du rouge, au fond, que sont d'un côté le rose et de l'autre l'oranger, plus l'association de l'oranger et du rose, qui, pour un œil occidental, est très très choquante, mais qui en Inde est très très courante. Et alors, le rouge a à voir avec la beauté, la fête, l'amour, le mariage, comme vous venez de le souligner, mais l'oranger prend une dimension religieuse qui se greffe sur le rouge. On l'obtient d'ailleurs avec différents colorants qu'on ne connaît pas ou qu'on n'utilise pas en Occident, et c'est une couleur qui a à voir avec l'hindouisme, mais surtout le bouddhisme.
Pour revenir en Occident, la période du XVIIIe siècle peut donner le sentiment d'une certaine régression du rouge. Je pense à Newton et au spectre. Nous avons tous appris par cœur violet, indigo, bleu, vert jaune, orangé, rouge. Le rouge est marginal. Et d'ailleurs, cela provoque les protestations de Goethe dans un livre fameux.
L'Occident, pendant très longtemps, a vécu selon la théorie d'Aristote concernant les couleurs et surtout le classement d'Aristote, qui n'est pas du tout le spectre, qui est un classement qui part du blanc pour aller au noir. Au milieu, il y a le rouge. Donc l'ordre est blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir.
Le rouge règne au centre.
Il est central et il s'oppose au blanc et au noir. Ce sont les 3 couleurs fortes.
Mais Newton, malheur.
Voilà, Newton découvre le spectre en 1666 en réalisant les fameuses expériences du prisme, en décomposant la lumière blanche du soleil en rayons colorés. Et il met sur le devant de la scène un nouvel ordre des couleurs, celui que nous connaissons pour l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc dans cet ordre nouveau des couleurs. Le noir et le blanc ne sont plus des couleurs pour Newton. Et le rouge n'est plus au centre, il est sur la marge. Et c'est vrai pour la science, ça va être vrai aussi plus ou moins pour la vie quotidienne. On voit peu à peu le rouge occuper une place de moins en moins grande dans les objets du quotidien, dans le vêtement, dans la mise en scène de la vie de tous les jours. Il ne disparaît pas, bien sûr, ça reste une couleur forte, mais qu'on utilise avec plus grande parcimonie que dans les siècles précédents, à partir du XVIIIe siècle.
Et puis il y a Dalton.
Au tournant des 18e, 19e siècles, de nouvelles théories scientifiques voient le jour, soit chimiques comme celle qui oppose couleurs primaires et couleurs complémentaires, chimiques puis physiques, soit physiologiques comme ce qu'on appelle le daltonisme, des troubles dans la perception des couleurs.
John Dalton a vécu au tournant du 18e et du 19e siècle.
Oui, et lui-même était atteint de l'un de ces troubles, d'où le nom de daltonisme que l'on donne à des troubles assez variés en fait, mais le principal consiste à confondre en termes de perception les rouges et les verts. Un peu comme dans l'échelle médiévale des couleurs où vert et rouge ne sont pas du tout opposés mais se touchent, c'est presque du camailleux pour l'œil médiéval et c'est confus pour l'œil du grand Dalton, un des plus grands hommes de science de tous les temps.
Et Goethe, alors Goethe proteste contre Newton.
Alors Goethe, qui est à la fois un homme de science et un homme de lettres, qui travaille pendant des décennies à son fameux traité des couleurs, qui paraît en 1810, pense que Newton s'est trompé. Et sur bien des points, il critique Newton. Les rayons colorés ne peuvent pas naître de la décomposition de la lumière blanche. Et notamment, il pense que le rouge, qui est pour lui la couleur que l'œil humain voit le mieux, ne peut pas se situer sur les marges du spectre. Il faut la replacer au centre. C'est passionnant, d'ailleurs. On a beaucoup critiqué Goethe, homme de science, mais il est de son temps et il pose des questions essentielles. Il est le premier, par exemple, à demander « Est-ce qu'une robe rouge est encore rouge quand personne ne la regarde, quand elle est enfermée dans l'armoire, par
exemple ?» On a pu se poser la question sur le petit chaperon rouge. Est-ce que ce chaperon est resté rouge quand on ne regardait pas? Vous parliez de sexualité tout à l'heure, il y a des interprétations psychanalytiques du chaperon rouge, n'est-ce pas, Michel Pastoureau?
L'histoire est ancienne, on a des traces déjà dès le Moyen-Âge central où le conte s'appelle « La petite robe rouge ». Donc le rouge est au cœur de cette histoire, malheureusement il n'y a pas beaucoup de travaux sur pourquoi rouge. Si on est honnête, on va faire un catalogue d'hypothèses assez vaste. Est-ce que ce rouge porté par le petit chaperon rouge, est-ce que c'est celui qui annonce le sang qui va couler, la cruauté du loup, la mort de la petite fille et de la grand-mère?
Ou bien
est-ce qu'on peut admettre que ce jour-là, la petite fille a mis sa plus belle robe, et dans les sociétés traditionnelles, en milieu paysan, en Europe, une belle robe, c'est une robe rouge, parce que c'est dans cette gamme que les teinturiers sont performants? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer que ce rouge est un rouge plutôt sexuel, la petite fille au fond est pubère ou prépubère et comme dit Bettelheim dans sa psychanalyse des contes de fées, elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. Ou bien est-ce que c'est une explication plus...
D'ailleurs, elle a connu le loup, c'est une expression. Hein.
Voilà, c'est une expression qui est restée pour le premier rapport sexuel d'une jeune fille. Ou bien est-ce que c'est une explication d'ordre plutôt sémiologique, à savoir qu'il ne faut pas étudier ce rouge tout seul, mais se rappeler qu'il y a un petit pot de beurre qui est blanc et une grand-mère ou un loup à l'arrivée qui sont noirs. Donc on a une triade blanc-rouge-noir qu'on retrouve souvent dans les contes et dans les fables. Dans Blanche-Neige, par exemple, une jeune femme blanche comme la neige reçoit une pomme empoisonnée rouge d'une vieille sorcière vêtue de noir. Ou bien dans la fable Le corbeau et le renard, un oiseau noir dans l'arbre lâche un fromage blanc qu'un renard rouge récupère en bas. On a toujours cette triade et la circulation de ces trois couleurs. Mais il y a encore une autre explication de type historique. Versions du conte, le petit chaperon rouge nous précise, notamment sous l'Ancien Régime, soit que la petite fille est née le jour de la Pentecôte, soit que l'histoire se passe le jour de la Pentecôte. Dans la symbolique chrétienne des couleurs, le rouge, c'est la couleur liturgique de ce jour-là, c'est la couleur de l'Esprit Saint. Donc on a un catalogue d'hypothèses assez vaste, auquel on peut ajouter d'ailleurs l'habitude de longue durée en Occident d'habiller les enfants de rouge pour mieux les voir et les surveiller.
Les petites filles en rouge et les petits garçons en bleu, parfois c'est ainsi, paraît-il, qu'on les distinguait entre leurs chaussons rouges et leurs chaussons bleus.
C'est assez récent, cette habitude d'habiller les filles en rose et les petits garçons en bleu ciel. Ça n'est pas antérieur au milieu du 19e siècle et c'est plus précoce dans l'Europe protestante que dans l'Europe catholique. Donc, il faut oublier les hypothèses selon lesquelles la Vierge aurait joué un rôle.
Alors qu'au Moyen-Âge, le bleu était plutôt féminin à cause de la Vierge et le rouge plutôt masculin. Il y a une inversion.
Oui, c'est fascinant pour l'historien de voir comment le sexe des couleurs a changé, si je puis dire. Pendant très longtemps, le rouge est viril, guerrier, c'est la couleur des soldats, c'est encore le pantalon rouge garance de l'armée française jusqu'au mois de janvier 1915.
Pour le malheur des soldats, d'ailleurs.
Pour le malheur des soldats. Et le bleu est plutôt féminin à cause de la Vierge, qui dans l'iconographie est souvent vêtue de bleu à partir de l'époque gothique. Et puis entre le 17e et le 19e siècle, le code s'inverse et le bleu a tendance à devenir masculin et le rouge à devenir féminin. Ça ne nous choque pas de dire ça dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'était le contraire dans les sociétés anciennes.
En termes de longue durée, l'impression est que le rouge ne cesse pas d'évoluer entre deux pôles. Il y a le rouge protecteur et puis il y a le rouge de la mort.
Oui, il y a toujours un bon et un mauvais rouge. Un rouge qui sauve, un rouge qui protège, un rouge qui réjouit, un rouge qui régénère et qui fortifie. Et puis de l'autre côté, un rouge destructeur, un rouge dramatique, un rouge associé à la faute, au péché, à la punition et à la mort.
Alors, il faut que nous terminions notre conversation, Michel Pastoureau, par un peu de vexillologie. Entendons la science des drapeaux. Il y a le drapeau rouge. Je voudrais que vous évoquiez l'histoire du drapeau rouge. Voilà un rouge qui va traverser l'histoire, en tout cas, sur la durée de 2 ou 3 siècles.
Oui, et qui va nous conduire sur la signification politique de la couleur rouge.
Eh bien, écoutons donc le drapeau rouge. C'est une chanson de Paul Brousse, de 1877. Paul Brousse, qui était un des leaders importants du socialisme à l'époque où il n'était pas encore unifié, à la fin du 19e siècle. L'interprétation est de Marc Augeret en 1968.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes effroi. Emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, le voilà, regardez, quand il fièrement il bouge, c'est l'envie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge puissant de l'ouvrier, rouge puissant de l'ouvrier.
Mais planté sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'envie au combat préparé.
Commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons.
Le voilà, le voilà.
L'art du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur.
Le voilà, le voilà.
Ce qui est curieux à observer, Michel Pastoureau, c'est que sous l'Ancien Régime, le drapeau rouge était en fait tout autre chose, un signal préventif et un symbole d'ordre, puisque les autorités royales et municipales mettaient en scène un grand morceau d'étoffe de cette couleur pour prévenir les populations d'un danger ou pour inciter, lors d'un rassemblement, la foule à se disperser. Et c'est au moment de la Révolution que le drapeau rouge bascule du côté de la subversion.
Oui, c'est un drapeau pacifique pendant de longues décennies, non seulement dans le Royaume de France, mais dans les pays voisins. Et puis, sa signification bascule au mois de juillet 1791. La foule s'était rassemblée sur le Champ de Mars pour demander la démission du roi Louis XVI. On est peu après l'épisode de Varennes. Il y a des registres qui sont installés. Mais il y a trop de monde. Il y a une presse. Il y a un danger. On sort le drapeau rouge pour inviter la foule à se disperser pacifiquement. pacifiquement. On ne sait pas très bien pourquoi. Tout d'un coup, la garde a tiré. Il y a eu des morts, les martyrs du Champ de Mars. Et à partir de ce moment-là, ce drapeau pacifique devient un drapeau insurrectionnel teint du sang des martyrs du Champ de Mars. Et il va réapparaître dans différentes journées révolutionnaires après la proclamation de la République. Puis, à différents endroits, sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet, en 1818, en 1832...
Sur les barricades de 1932, Victor Hugo nous montre l'importance du drapeau rouge dans Les Misérables.
Voilà, il consacre de nombreuses pages à ce drapeau qui est teint du sang des martyrs, qui est le drapeau du peuple, et spécialement du peuple ouvrier.
Et un moment décisif, c'est 1848.
C'est 1848, et c'est la fameuse journée du 25 février, où, autour de l'hôtel de ville et sur la place, la foule demande, entre autres choses, l'adoption du drapeau rouge comme drapeau national, demande au gouvernement provisoire de prendre des décisions en ce sens. Ça a failli être fait, et le drapeau tricolore a été sauvé par un discours extraordinaire de Lamartine, qui fait partie de ce gouvernement provisoire, et qui souligne qu'il faut préférer le drapeau tricolore qui a fait le tour du monde, dit-il, au drapeau rouge qui n'a fait que le tour du Champ de Mars, c'est une belle formule, et ça a sauvé le drapeau tricolore.
Un pavillon de terreur, dit-il, le drapeau rouge.
Un pavillon de terreur qui effraie les honnêtes gens. Et ce drapeau va donc être rejeté dans les oppositions, les mouvements insurrectionnels, et de plus en plus situé sur la palette politique du côté de la gauche et de l'extrême gauche. On va le voir réapparaître sous la Commune de Paris, bien sûr.
Cité dans la chanson de Paul Brousse.
Oui, et puis dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e, ce drapeau qui était au fond à fonction nationale va devenir international dans un certain nombre de mouvements de syndicalistes révolutionnaires. Et puis, quand l'URSS d'abord, la Chine ensuite, l'adopteront comme drapeau national, il sera symbole de communisme, au point qu'on ne pourra plus dire pendant longtemps « j'aime le rouge » sans être tout de suite perçu comme un communiste. Une espèce de confiscation de la couleur par un mouvement politique et idéologique. Donc c'est une nouvelle histoire pour le drapeau rouge qui, et moi je l'ai vu pendant les journées de mai 68, sur sa gauche, à l'extrême gauche, finira par être débordé par le drapeau noir, celui des anarchistes.
Tandis que quand, dans l'armée française, on plie le drapeau, après avoir descendu les couleurs, il est d'usage de cacher la bande rouge pour qu'elle ne soit plus visible, comme s'il fallait se garder du vieux démon révolutionnaire.
Oui, c'est ce que j'ai appris pendant mon service militaire. Il y a une façon correcte de plier les couleurs de la France, et on ne doit voir que du bleu. Le rouge et le blanc, couleurs royalistes d'un côté, subversives de l'autre, doivent être cachés par le bleu, couleur pacifique et consensuelle.
Merci beaucoup, merci Michel Pastoureau. Vous avez publié plusieurs ouvrages précieux sur différentes couleurs. Je signale le noir, histoire d'une couleur, au Seuil en 2008, le vert, histoire d'une couleur, toujours au Seuil en 2013. Et puis, vous nous annoncez le rouge, vous nous avez donné une sorte de primeur de vos réflexions sur le rouge. Ce sera en 2016, toujours au Seuil. J'ai évoqué aussi votre ouvrage consacré à Jésus le teinturier, couleur et teinture dans l'Occident médiéval, une publication du Léopard d'or en 1997. Et puis, hommage également au livre d'Anne Varichon, Couleurs, pigments et teintures dans les mains du peuple, toujours au Seuil en 2005. C'est un livre que vous appréciez?
Oui, c'est un livre d'une ethnologue qui nous apprend les pratiques de la couleur, pigments et colorants, dans différentes sociétés, avec des pratiques communes et aussi des pratiques très différentes.
Vous pourrez trouver une bibliographie, vous le savez, plus complète, avec en particulier la liste de vos ouvrages, qui est considérable, Michel Pastoureau, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, vous avez vu que l'Assemblée nationale vient de débattre du droit d'asile en France pour le faire évoluer avec une loi nouvelle. Nous parlerons de la France terre d'asile. Fragile générosité, point d'interrogation, avec Delphine Diaz, qui consacre un livre à ce thème pour la première moitié du 19e siècle. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, Bruno Mourlan étant à la prise de son, Nathalie Rouvillain nous ayant aidé à la discothèque, et Sandra Escamez aussi pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, l'économie en question, comme chaque samedi, l'émission de Dominique Rousset.